Quel avenir pour le Venezuela entre guerre économique, médiatique et menace d'invasion de la part des USA, tentative de coup d'État et résistance de la révolution bolivarienne? Donc là, vous avez forcément une idée du sujet. N'importe qui, lisant la presse, a forcément, ou regardant la télévision, ou écoutant la radio, a forcément entendu parler du Venezuela. La couverture médiatique est démesurée par rapport à d'autres pays. Et généralement, presque généralement, toujours à charge contre le gouvernement légal du Venezuela. Donc non seulement à charge, mais une mauvaise foi. Donc pour le Parti du Travail, c'était important d'organiser ce débat. Premièrement, pour réaffirmer notre solidarité avec le peuple du Venezuela et la révolution bolivarienne. Donc nous sommes un parti internationaliste qui, depuis sa fondation, a toujours été fidèle à ce principe de solidarité internationale avec tous les peuples qui luttent pour leur émancipation, pour la construction, pour leur démocratie et pour la construction d'une nouvelle société. Pour nous, effectivement, nous avons soutenu la révolution bolivarienne dès ses débuts. Donc, c'est quelque chose que, si on se contente des médias dominants, c'est l'histoire qu'on oublie souvent. On oublie souvent que c'était la première grande révolution survenue à l'ère néolibérale. On oublie un peu ce qu'était le Venezuela néolibéral d'avant la révolution bolivarienne, avec les plans d'ajustement structurel, concentration de richesses inouïes entre les mains de l'oligarchie, les plans de misère noire pour le peuple, et puis une répression. On a encore des immeubles qui portent des fragments, des impacts de mitrailleuses. C'est à la mitrailleuse qu'on recrimait les manifestations populaires sous le Venezuela démocratique que l'opposition regrette aujourd'hui. Et effectivement, la révolution bolivarienne avec Hugo Chavez avait amené un espoir extraordinaire de rupture avec ce cours mortifère de la tyrannie néolibérale qui s'est imposé à l'aube des années 90, qui a eu le courage de porter haut la bannière du socialisme dont les classes dominantes pensaient s'être débarrassées, et qui a permis un progrès social extraordinaire, une rupture à l'échelle du monde d'Amérique latine qui maintenant est contrariée aujourd'hui. Effectivement. Et autant c'était essentiel pour nous de soutenir la révolution bolivarienne à l'époque de ses succès, autant nous la soutenons aujourd'hui dans des temps plus difficiles. Donc le dernier épisode, vous avez sans doute vu la tentative de coup d'État avec l'élève des USA, Juan Guaido, qu'on a présenté abusivement comme le président légitime. Alors pour donner un exemple, c'est comme si en France, le président du Sénat déclarait que Emmanuel Macron a perdu toute légitimité avec la crise des Gilets jaunes et que sous la pression de la Ve République, c'est lui le président désormais et qu'il appelle l'armée américaine à intervenir en France pour rétablir la démocratie. Alors on peut imaginer quelle serait la réaction du gouvernement de Macron. À mon avis, il ne réagirait pas avec autant de modération que Maduro. Mais effectivement, c'est pour dire toute l'ampleur des mensonges, des fake news flagrantes diffusées sur le Venezuela. On parle beaucoup des fake news des partisans de Trump, mais quand c'est des fake news qui arrangent l'opinion dominante, ça dérange beaucoup moins. Et disons, pour nous, c'était essentiel de rétablir la vérité, mais une autre version que celle qui est racontée partout. Pour ça que nous avons organisé ce débat public avec trois intervenants de qualité. Premièrement, Christian Saavedra, qui est membre du Parti Socialiste du Travail de son jeunesse, militant au sein de plusieurs organisations internationalistes, ainsi que secrétaire à l'ambassade du Venezuela à Berne et assistant de l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, parce que pour nous c'était important aussi que le point de vue de l'État vénézuélien soit entendu et pas seulement les mensonges qu'on a pu sur lui. Deuxièmement, nous avons Patricia Salomon Aldonate, qui est membre du comité coordinateur d'Alba Sus, une importante organisation de solidarité latine. Et enfin, Amanda Joseph, ancienne secrétaire nationale du Parti Socialiste du Travail, président de la société d'édition de Moshe Gdo, et qui est de retour d'une mission de solidarité avec le Venezuela, et qui pourra donner une autre version de ce qui se passe dans ce pays que tout ce qu'on a pu entendre. Donc les trois intervenants passeront dans l'ordre, ensuite on aura un long moment pour vos questions, puisqu'on veut avoir un débat maximalement ouvert pour toute personne qui s'intéresse à ce qui se passe vraiment au Venezuela, qui se pose des questions. Donc, Christian, tu peux commencer.
bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu en présence, merci de l'intérêt que vous portez au thème vénézuélien. C'est un thème d'actualité, c'est un pays qui est au cœur d'énormément de papiers dans la presse digitale, dans la presse papier, sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Enfin, on nous sert du Venezuela toutes les sauces. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? On va essayer, les trois personnes qui sont là, d'essayer de répondre à quelques questions, essayer de vous donner un autre point de vue que celui qui est propagé actuellement dans les médias, notamment aussi à la RTS. Et on sera ensuite disponible pour répondre à toutes vos questions, dans la mesure de nos possibilités, évidemment. Donc, je m'appelle Christian, je suis bolivien, je suis venu en Suisse en 95, j'avais 7 ans. Ensuite, je me suis naturalisé en 2007, donc je suis devenu suisse. Et puis, par la force des choses, et puis par beaucoup de chance aussi, j'ai pu rencontrer l'équipe de l'ambassade, l'ambassadeur. Et puis un jour, on m'a proposé un poste à l'ambassade. Donc j'ai accepté avec très grand plaisir. C'était un honneur pour moi de pouvoir être un petit grain de sel dans cette immense révolution bolivarienne. Et puis, donc, depuis, je suis avec l'équipe. Donc je suis là grâce au grand travail d'Alexander Enilin, non seulement un travail d'organisation et de coordination, mais également le travail de solidarité qu'il a fourni durant les dernières années, toujours très constant, toujours là pour envoyer un petit message, un communiqué, prendre position publiquement ou en privé. Donc merci beaucoup Alexander Enilin, c'est pour toute l'équipe de l'ambassade et pour tout le peuple bolivarien et vénézuélien, c'est quelque chose qui compte énormément. Merci aux parties du travail, aux parties du travail de cette solidarité-là. Donc je vais commencer peut-être par vous situer le Venezuela. Hein, le Venezuela, c'est un pays d'Amérique du Sud, qui se situe au nord de l'Amérique du Sud, qui a la frontière directe avec la Colombie et le Brésil. Le Venezuela, c'est une république fédérale, présidentielle, la langue officielle est l'espagnol, la capitale c'est Caracas, et c'est un pays relativement grand, moins d'un million de kilomètres carrés. L'indépendance a été proclamée le 5 juillet 1811, et c'est un pays qui a presque 32 millions d'habitants. Voilà. Autre chose à savoir, très important, je vous le dis d'emblée, donc le Venezuela, c'est les plus grandes réserves de pétrole certifiées au monde. Hein? Donc c'est le premier pays qui a les plus grandes réserves de pétrole certifiées. C'est parmi les 10 plus grandes réserves d'eau douce de la planète. Le Venezuela a d'énormes quantités d'or, énormes quantités d'or. Ils doivent être dans les 5 premiers pays avec les plus grandes réserves d'or au monde. Et puis, c'est aussi un pays qui a d'énormes, beaucoup d'énormes, hein, mais d'énormes réserves de coltan, de coltan, d'autres minerais qui sont nécessaires à la fabrication d'appareils de haute technologie. Alors, ce n'est pas pour rien hein, que toutes ces richesses se trouvent actuellement au cœur de ce pays qui fait débat, dans lequel on entend un peu dire de tout. Alors, le Venezuela aussi, vu qu'on on est en Suisse, je veux vous dire, c'est le meilleur cacao du monde. Hein, c'est avec ce meilleur cacao du monde-là qu'on fabrique les meilleurs chocolats du monde qui sont en Suisse. Alors, la géopolitique, c'est de la politique. Donc, peut-être qu'on va commencer par là. C'est-à-dire que comprendre le Venezuela, c'est comprendre ce pays à l'intérieur d'une région, à l'intérieur d'un système, et puis quel est ce rapport qu'il a avec sa région. Donc, le Venezuela, depuis l'élection de Hugo Chavez en 1999, a vécu une révolution bolivarienne. Il y a eu une assemblée nationale constituante qui s'est formée, ils ont écrit une nouvelle constitution qui a été soumise au peuple par référendum, qui a été acceptée. Et puis, donc, on a changé le nom du pays. La République du Venezuela, on est passé à la République bolivarienne du Venezuela. Bolivar, c'est qui? C'est le libérateur. C'est un Vénézuélien qui était, on va dire, un Espagnol qui a été baigné dans le Venezuela, mais qui avait quand même cette relation avec l'Europe. Mais il était profondément, il se sentait profondément aussi vénézuélien, donc il a œuvré pour l'indépendance non seulement de ce qu'on appelait la Grande Colombie, mais pour d'autres pays comme le Pérou, par exemple. Et en son honneur, on a nommé, par exemple, la Bolivie, qui a été libérée par José Antonio de Sucre, Bolivie, en l'honneur du libérateur Bolivar. Donc voilà. C'est pour ça qu'on appelait la révolution bolivarienne, parce que dans cette optique de libération, d'indépendance, c'est dans cette optique-là qu'Hugo Chavez va entreprendre sa révolution. Alors, le Venezuela a proclamé son indépendance le 5 juillet 1811. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une autre indépendance? Donc, c'est la deuxième et définitive indépendance, c'est-à-dire c'est celle où on va gagner sa souveraineté. Hein, on va regagner ce qu'on avait perdu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre ses propres décisions, on va pouvoir faire ce que bon nous semble, on ne va pas céder à des pressions du FMI, de grandes puissances que peuvent être les États-Unis, la Russie ou la Chine. On va essayer de mener son propre combat pour essayer de faire en sorte que son peuple vive de la meilleure des façons et vive dans dans un certain confort. Hein, donc un confort de vie, un confort aussi matériel, mais l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, ce sont des choses qui sont centrales, ce sont des thèmes récurrents dans la politique vénézuélienne. Et ce sont des, au fil du temps, de ces 20 années de révolution et de lutte, ce sont finalement des acquis, des conquis sociaux qui ont été conquis et acquis par les Vénézuéliens sous l'impulsion de Chavez. Je ne vais pas trop m'étaler parce que je pense que l'expérience d'Amanda qui est fraîchement retournée du Venezuela et puis l'expérience de Patricia qui est allée, c'était l'année passée
2017.
En 2017, en octobre, donc c'était quoi les élections gouvernementales
Une rencontre sur le Venezuela.
Ah oui, c'était dans le cadre de la campagne mondiale de solidarité, nous sommes tous le Venezuela. Donc voilà aussi une expérience de terrain qu'ils vont pouvoir partager avec vous. Moi je suis là pour vous dire simplement un grand merci et puis vous amener les salutations de toute l'ambassade, de l'ambassadeur particulièrement. Il est revenu de Caracas hier, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être là. Et puis aussi vous dire que le peuple vénézuélien est très sensible à ce genre d'événements, à ce genre de soirées, de débats dans lesquels on voit que les gens ont un intérêt à savoir ce qui se passe réellement au pays et pas seulement à ce qu'on voit à la télévision. Donc, rapidement, le Venezuela n'est pas la dictature qu'on défend. Le Venezuela est une république démocratique dans laquelle les gens vont voter, dans laquelle les gens ne sont pas emprisonnés pour leurs idées politiques. D'ailleurs, aucun pays ne reconnaît les demandes de Vénézuéliens qui viendraient pour des questions politiques. Hein, on ne peut pas demander l'asile politique lorsqu'on est Vénézuélien. Ce n'est pas reconnu, ni en Suisse, ni dans d'autres pays européens. L'asile humanitaire non plus, hein, donc ça démontre quand même qu'il n'y a pas de persécution politique, il n'y a pas de crise humanitaire là-bas. Si on parle d'une crise, alors c'est la crise économique, c'est l'étranglement de l'économie vénézuélienne. C'est le blocus qui est en train d'imposer les États-Unis, comme ils l'ont fait à Cuba, qui ils sont en train de transposer cette même méthode-là sur le Venezuela. Donc les médicaments qui manquent au Venezuela, ce n'est pas parce que le gouvernement ne les achète pas ou parce qu'il les accapare ou parce qu'il veut laisser mourir le peuple. Non, le gouvernement achète des millions et des millions de médicaments, par exemple en Russie ou à l'Inde ou à d'autres fournisseurs, et il y a des gens qui se permettent de bloquer ces médicaments-là ou de faire pression sur les entreprises pharmaceutiques. Et donc les médicaments ne sont pas envoyés, n'arrivent pas à destination. Et en plus, les fonds qui ont été servis pour payer les médicaments, eh ben, ils ne les revoient jamais, le gouvernement vénézuélien. On est en train de congeler les comptes du gouvernement. Les États-Unis, bien sûr, ont la main mise derrière tout ça. C'est eux qui orchestrent très habilement l'étranglement et l'étouffement du peuple vénézuélien. Et puis, tout ça, bien sûr, avec la complicité, vraiment la complicité de l'opposition, d'une opposition soumise à des intérêts étrangers qui ne voient pas dans l'intérêt commun leur propre intérêt. Hein, typiquement des personnes qui sont des personnes qui ont des entreprises de distribution énormes au Venezuela, donc qui ont énormément de ressources financières, qui ont vu dans la révolution un système qui n'allait pas dans leur sens, qui n'était pas à leur profit, et puis c'est un peu le gâteau qui s'échappe. Hein. Le gâteau qu'on se partageait à l'époque, et bien là on ne peut plus le partager. Et puis donc il reste cette dernière carte qui est donc de discréditer l'État, discréditer le pays, la nation, discréditer toute décision politique qui pourrait être prise. Tout ça dans l'optique de, à un moment donné, justifier une intervention étrangère qui pourrait être une intervention militaire des États-Unis. Trump a dit très clairement, je n'écarte aucune option, toutes les options sont sur la table concernant le Venezuela, également l'option militaire. Donc c'est une menace ouverte contre tout un peuple, contre toute une région, parce qu'en Amérique latine, il n'y a personne qui veut d'intervention US. Hein, il y en a déjà eu assez, et les latino-américains veulent tout sauf une autre intervention. Donc c'est vraiment une menace qui plane, c'est une épée de Damoclès qui est sur la tête des Vénézuéliens, cette intervention US, parce qu'évidemment l'opposition, hein, elle va monter dans des jets, et puis elle va partir du pays s'il y a un conflit armé au Venezuela, et puis quelles seraient les conséquences d'un conflit armé pour la région, non seulement pour la, le Venezuela, mais pour la Colombie, pour le Brésil, qui sont des pays les plus rapprochés. Ce serait catastrophique. Personne ne veut de guerre, mais cette option est là, ils le disent ouvertement. Donc c'est un gouvernement qui, clairement, les États-Unis n'est pas en train de respecter la volonté populaire. On va me dire, oui, bon, Nicolas Maduro, est-ce que vraiment il est légitime, etc. La légitimité, moi je ne suis pas vénézuélien, donc effectivement la légitimité c'est aux Vénézuéliens de la juger. Après si on prend les faits sont les suivants, c'est que le 20 mai 2018 on a eu les élections présidentielles, on a eu une participation de 46%. Vous allez me dire, ouais mais 46% c'est pas beaucoup, etc. Ben, quand même, si on regarde la participation en Suisse, 46% c'est une très bonne participation. C'est une participation qui, effectivement, n'est pas aussi grande que dans les autres élections, mais ça reste un taux de participation correct. On regarde les taux de participation en France, pour Macron, en Argentine, pour Macri, ils sont plus faibles. Macri, je parlais de 54. Mais bref, c'est un taux de participation de 46%. Ça représente 9 203 744 votes. Hein, bon, plus de 9 millions de personnes qui vont aller voter. Maduro va gagner le scrutin avec plus de 67%. D'accord ? Le deuxième candidat, Henry Falcón, lui arrive derrière avec 20,92%. C'est l'un des deux autres candidats qui ont fait des scores très faibles. Donc, on a une élection présidentielle qui s'est déroulée avec un taux de participation de 46% et tout ça dans le contexte suivant. C'est-à-dire que l'opposition a dit de toute façon, au Venezuela, les élections sont truquées. Le cinquième pouvoir, qui est la Cour électorale nationale, le CNE vénézuélien. Donc oui, c'est un pays qui a cinq pouvoirs et non pas trois, comme généralement ont les pays. Ils ont un autre pouvoir lié à un pouvoir électoral. Donc c'est eux qui vont organiser toutes les élections, etc. Et donc l'opposition dit non, eux, ils sont de toute façon au bottes du gouvernement, ils vont truquer les résultats, etc. etc. N'allez pas voter. Alors que c'était quand même l'occasion pour l'opposition de se rassembler, de s'unir, de prendre un seul candidat et d'aller au front contre Maduro. Et puis si tout ce qu'on raconte était vrai, et bien la massivité des gens qui allaient voter contre Maduro, peut-être pour un candidat, mais surtout contre Maduro en votant pour l'autre option, et bien ça serait vu. Hein, si vous faites des sondages à la sortie des points de vote, et puis que tout d'un coup vous estimez qu'il y a 70% de personnes qui ont voté pour l'autre candidat, et puis tout d'un coup on nous annonce Maduro gagnant avec 70%, ok, il y a des doutes, il faudra aller regarder les rapports des observateurs internationaux qui sont là à chaque élection là-bas, hein, il faudra aller voir, creuser, etc., voir si vraiment il y a des fraudes. C'est un système qui est automatisé, c'est un système qui marche du tonnerre, c'est un système qui a la pointe de la technologie. On vote là-bas, avec, on arrive, on met son empreinte, c'est reconnu par le système, on arrive avec sa pièce d'identité, on va voter sur un papier, on vote aussi sur la machine, on met le papier et ensuite on fait le décompte. Les papiers des bulletins vont être corroborés, vont venir corroborer les résultats de la machine. Ah donc il y a un double contrôle, donc, je ne vois pas trop en quoi ces arguments de le CNE n'est pas transparent, il y a la triche, etc. Bon, clairement ça ne tient pas, l'opposition essaie de brouiller les pistes et essaie de nous faire croire qu'effectivement non, c'est une dictature, etc., il n'y a pas de démocratie là-bas. Donc, ils ont loupé cette élection en appelant au boycott de cette dernière. Mais malgré le boycott, on se rend compte que plus de 9 millions de Vénézuéliens sont allés voter. Et on a les images dans lesquelles on voit les gens qui se déplacent, qui sont allés. Ils ont ouvert d'autres grands centres à Caracas parce que l'opposition a fait des blocages sur certaines rues, dans certains secteurs bourgeois, dans lesquels il y avait des centres de vote. Donc, ils n'étaient pas accessibles. Du coup, ils ont ouvert un plus grand centre de vote à Caracas pour accueillir les gens qui voudraient voter, qui ne pouvaient pas le faire dans leur quartier par exemple. Voilà, le 10 janvier, donc, Nicolas Maduro prend possession pour son deuxième mandat, donc 2019-2025, et puis là, on a tout le corps diplomatique qui est présent à Caracas, qui va voir cette possession. Très rapidement, les gouvernements de l'Union européenne et des États-Unis avaient déclaré qu'ils ne reconnaîtraient pas la légitimité du président s'il prenait possession, ils appellent à de nouvelles élections, blablabla. Donc, Nicolas Maduro, le gouvernement et les Vénézuéliens savaient à quoi s'attendre, pas de surprise de ce côté-là. Le 10 janvier, il prend possession, tout de suite, des déclarations de l'Union européenne, et puis des États-Unis qui disent qu'il n'est pas légitime, qu'il faut organiser de nouvelles élections, etc., qu'il y aura des sanctions. Alors oui, il y a de plus en plus de sanctions, la Suisse a aussi posé des sanctions l'année passée en mars. Bref, tout le monde s'acharne un petit peu, et puis tout d'un coup, on a un coup de théâtre où Juan Guaido, qui avait été désigné président de l'Assemblée nationale, va, c'est ce qu'il appelle un cabildo, c'est-à-dire que les personnes se réunissent, et puis tout d'un coup, ils vont prendre une décision, se réunir ouverte dans la rue, et puis lui, il a appelé cette espèce de concentration de ses partisans un cabildo, et dans lequel il s'est autoproclamé, auto-juramenté, autoproclamé président du Venezuela, un président en charge du Venezuela, en prétextant un article selon son interprétation dans la Constitution, etc. Il s'avère que, si vous regardez dans les détails cette loi, il n'y a pas de cas de figure dans lequel il peut s'autoproclamer président en charge. Hein? Si Nicolas Maduro, par exemple, décède avant sa prise de pouvoir, sa prise de fonction le 10 janvier, et bien à ce moment-là, le président de l'Assemblée nationale serait président en charge et doit, dans les 30 jours, organiser de nouvelles élections. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, Nicolas Maduro a pris possession. Donc, l'article, en fait, il n'est plus valable. On ne peut pas appeler cet article, on ne peut pas l'invoquer. Donc voilà, ça, c'était leur manière de, d'excuser. Pardon?
C'est pas la version de la CIA.
Ah non, mais je ne crois pas que la version de la CIA, on va l'entendre ce soir. Du coup, il se juramente, il s'autoproclame. Très rapidement, hein, dans les quelques secondes qui ont suivi, on a le département d'État des États-Unis, qui va déclarer sur Twitter, voilà, nous reconnaissons Juan Guaido, président en charge du Venezuela. On a des gouvernements entiers du Brésil, de la Colombie, des pays européens, et puis très rapidement la majorité de ce qu'ils appellent la communauté internationale, qui sont en gros les alliés des États-Unis, hein, donc les pays de l'UE plus les États-Unis, et puis certains États clés et amis des États-Unis en Amérique latine, comme la Colombie et le Brésil, hein, avec Bolsonaro, hein, je pense que vous connaissez. Donc voilà, il n'y a pas de surprise, hein, aucune surprise. Ils reconnaissent Juan Guaido, etc. Et donc là, c'est une espèce de... C'est un espoir pour toute l'opposition, parce qu'ils pensent qu'avec le soutien des États-Unis, la reconnaissance de Juan Guaido, etc., c'est l'opportunité ou jamais pour renverser le gouvernement, pour faire disparaître Maduro. Tellement il y aura de pression, plus la menace militaire, il devrait monter dans un hélicoptère et partir dans le pays. Et bien non, il reste, les forces armées déclarent qu'elles sont loyales, qu'elles sont là, qu'il est président de rien du tout, et dans les faits, s'il est président en charge, qu'est-ce qu'il contrôle? Et bien il ne contrôle aucun des cinq pouvoirs, il ne contrôle rien. Et les soi-disant militaires qui font des putsch ou des essais de putsch se comptent par dizaines. Au mieux, selon les statistiques de l'opposition elle-même, le nombre de dissidents, enfin de déserteurs, de traîtres, serait au nombre de 0,01% des forces armées. Donc, vous voyez bien qu'il n'a rien du tout et qu'il n'a pas de soutien militaire. D'ailleurs, le putsch éclair qui s'est passé il y a quelques jours en arrière nous a bien montré qu'ils n'ont pas de pouvoir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un show, une mascarade pour vraiment libérer Leopoldo López et puis le faire déguerpir dans une ambassade. Voilà, donc Leopoldo López, c'est un oppositeur très connu qui était à l'exécutif de Caracas. À un moment donné, il a commis des actes, des délits. Voilà, il a été jugé, il a été emprisonné. Tout de suite, il y a eu l'opposition qui est montée au créneau de c'est un prisonnier politique, etc. Et puis, très rapidement, Nicolas Maduro va quand même accepter de l'assigner à résidence. Il va rester à résidence là où il était depuis. Et puis, il n'est plus éligible non plus. Voilà. Ça, c'est le tribunal suprême de justice qui a donné cette sentence-là. Et puis Leopoldo López, grande figure de l'opposition qui est soi-disant l'homme qui peut rassembler, qui pourrait battre Maduro, etc. Donc voilà, on a crié au scandale de lui faire subir ça, etc. Il est du même parti que Juan Guaido. Hein, donc voilà, le show a fonctionné, il est dans une ambassade. Mais en gros, le lendemain, donc au moins de 24 heures, tout a été désamorcé, tout était revenu à la normale, personne n'a pénétré dans la base aérienne de la Carlota. Il y a eu une perte humaine par balle, et puis ceux qui avaient des balles, c'était les militaires traîtres qui étaient sur le pont avec les mitraillettes. C'est les seuls qui avaient les balles et qui les ont utilisées. Donc voilà, on a vu aussi un blindé qui va foncer dans la foule, etc. Donc ça, c'était des traîtres, c'est des gens qui étaient avec Guaido, qui ont fait cela. Ils ont d'ailleurs, après, on voit une deuxième vidéo dans laquelle ils sont arrêtés par les forces armées. Et puis tout de suite, on voit la manipulation. C'est-à-dire qu'on voit qu'on nous présente la chose comme c'est Juan Guaido qui fait arrêter des militaires. Hein? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc voilà, c'était un flop, ça n'a pas fonctionné. Le Venezuela s'est réveillé le lendemain encore plus fort qu'il ne l'était la veille. Le peuple vénézuélien, comme pourront vous le confirmer mes camarades, est un peuple conscient politiquement, qui connaît ses droits, qui connaît bien la politique, qui connaît bien la géopolitique. C'est un travail de long terme qui a été effectué par le commandant Hugo Chavez. Ils ont des programmes à la télévision dans lesquels ils vont analyser les points stratégiques, pourquoi l'économie, comment se déroule le blocus, etc., pour que les citoyens soient plus à même de comprendre. Et donc lorsqu'on a Caracas, vous parlez avec quelqu'un, et puis que vous lui dites qu'il n'y a pas de pain, ben, il va vous expliquer qu'effectivement il n'y a pas de pain parce que la farine, elle est accaparée par ceux qui sont dans la grande distribution, ils ont des stocks énormes quelque part, et puis ils créent la rareté, donc bien sûr les prix, la superinflation, etc. etc. Alors il vous explique ça avec une clarté, et puis qu'ils vous disent de toute façon, nous on est un peuple révolutionnaire, on va résister, on est là, on continue, on va de l'avant. Très bien, c'est leur choix, eh bien, voilà, on respecte, c'est une démocratie, c'est leur choix, ils veulent résister, eh bien, qu'ils résistent, moi je vous dis vous dire. Donc voilà, je reste après ouvert à toutes questions que vous pourriez avoir, je vais céder la place à mes camarades.